France, comme nulle part ailleurs, le maintien de l'ordre est une affaire politique. Quand, chaque samedi, à Toulouse, à Bordeaux, à Saint-Étienne, à Montpellier, où chaque semaine c'est dur, ce ne sont pas les commissaires de police qui décident, c'est le préfet. C'est le préfet qui décide quel type d'armes on va utiliser, à quel moment on va les déployer, quelle force de l'ordre on installe, qui va commander, comment, etc., etc. Il faut bien comprendre qu'on n'emploie pas normalement les armes n'importe comment. Il se trouve que si, mais logiquement, ça obéit. Or, le préfet prend ses ordres du ministre de l'Intérieur, puisqu'il est le représentant de l'État, qui lui-même en discute avec l'Élysée. C'est ce dont on parle, c'est pas de police, c'est de politique.
Dans l'actualité des idées aujourd'hui, la question du maintien de l'ordre, telle qu'elle se pose depuis le mouvement des Gilets jaunes et au-delà, lycéens, zadistes, la France est-elle en train de criminaliser sa contestation? Invitée, la politologue et sociologue Vanessa Codaccioni, à l'occasion de la publication de Répression, l'État face aux contestations politiques, qui paraît chez Textuel, un essai qui dénonce la répression exercée par l'État sur l'indignation politique, notamment par un processus de dépolitisation. En dialogue avec Joachim Barbier, du magazine Society, qui revient en une sur les violences policières de ces derniers mois dans son nouveau numéro, à travers le témoignage du journaliste David Dufresne qu'on entendait en ouverture. Sur son fil Twitter, Allo, Place Beauvau et sur Mediapart, il signale chaque débordement ou bavure des forces de l'ordre depuis le début de la mobilisation des Gilets jaunes. Bonjour Vanessa Codaccioni.
Bonjour.
Et bonjour Joachim Barbier.
Bonjour.
Répertoriez tous les signalements de violence, ce travail de fourmi que David Dufresne réalise, est-ce qu'il l'a conduit pour vous en militant ou en journaliste d'investigation?
Alors David Dufresne se dit plus journaliste. Il dit justement, j'ai pas de carte de presse et quel que soit le support ou l'exercice, il revendique un point de vue. Donc voilà, c'est quelqu'un qui travaille sur les violences policières depuis très très longtemps, comme il le dit, depuis qu'il s'intéresse à moi. Puisque quand il avait 15 ans, il habitait à Poitiers, et il avait une asso qui éditait un fanzine rock qui s'appelait Tant qu'il y avait du rock. Et manque de bol pour lui, les RG, les renseignements généraux, s'intéressaient à lui puisqu'il y avait quelques membres de cette association qui avaient des liens supposés avec des mecs qui avaient un peu cassé du mobilier urbain, je crois, à Rouen ou au Havre. Et donc, il avait été convoqué à ce moment-là avec une confrontation classique entre le good cop et le bad cop, le gentil et puis le méchant, pour savoir si derrière cet assaut innocente de jeunes adolescents amoureux de rock, il n'y avait pas des dangereux terroristes en puissance.
Alors, il ne se revendique pas comme tel, mais il vient néanmoins d'être récompensé du Grand Prix des Assises du journalisme pour ce travail. Vanessa Codaccioni, il revendique, lui, une dimension critique, pas simplement technique, pour parler du maintien de l'ordre. C'est un aspect qui est plutôt privilégié par les autorités et par les médias, dit-il. Une dimension critique, c'est-à-dire aussi une dimension politique, car, et c'est ce qu'il dit dans vos pages, celle de Society, Joachim Barbier, attention, ce n'est pas la Stasi, la police française, mais la police du maintien de l'ordre ici en France est celle qui est la plus dépendante et contrôlée par le pouvoir politique. À quoi ça tient pour vous, Vanessa Codaccioni? À notre histoire?
Oui, ça tient à notre histoire. L'État français est un État qui s'est construit par la répression et notamment par la centralisation de la violence, du monopole de la violence. Et donc très tôt, l'État a voulu contrôler la gestion du maintien de l'ordre et la gestion de l'activisme oppositionnel, c'est-à-dire des opposants et des contestataires. Ça, c'est extrêmement important. La police, pourquoi est-ce qu'on a une police qui fait du maintien de l'ordre? C'était pour éviter les bavures militaires. Le massacre de Fourmies en 1891, qui a fait quasiment 10 morts, 35 blessés, a convaincu les gouvernements qu'il fallait mettre une autre force de maintien d'ordre. Et donc, on a choisi la police. Mais la police, effectivement, elle est politique. Pas dans le sens, effectivement, de la Stasi, mais le rôle du préfet est central aujourd'hui dans la répression. Et pas qu'en dans la répression des manifestations de rue. Si on regarde comment se fait la gestion du militantisme aujourd'hui, on voit très bien que l'administration a un rôle central. Les interdictions de manifester, les assignations à résidence, si on regarde tout ce qui s'est fait sous l'état d'urgence, qui avait le pouvoir? Le préfet. Et le préfet, effectivement, dépend du gouvernement. Et donc là, il y a une forme de verticalité entre le pouvoir central, le pouvoir politique et le préfet qui va faire redescendre ses ordres. Mais il faut faire attention, le préfet a aussi une forme d'autonomie, une forme de personnalité. On a beaucoup parlé ces derniers temps de l'opposition entre des préfets comme Maurice Papon, par exemple, à une trajectoire très particulière, qui était un préfet extrêmement répressif, et puis le dernier préfet qui s'est fait limoger parce qu'il ne l'avait pas été assez. Donc, le pouvoir politique essaie de tenir ses préfets, et s'ils ne sont pas assez répressifs, il les limoge.
Alors c'est pour ça qu'on peut, une veille de mobilisation ou un lendemain de mobilisation des Gilets jaunes, entendre autant parler le préfet que, et c'est le cas le plus courant, le ministre de l'Intérieur, Christophe oui. Castaner, ou le Premier ministre, ou d'autres membres.
Exactement, et on voit très bien que c'est le gouvernement qui gère la répression policière, judiciaire, administrative, voire militaire, et c'est aussi le cas de la justice. Quand on a vu Nicole Belloubet aller au tribunal rencontrer le procureur de la République pour discuter, on sait très bien qu'une partie de la magistrature, mais c'est pas illégal, c'est dans notre droit, c'est comme ça, une partie de la magistrature, le parquet, dépend du ministre de la Justice. Et donc on voit très bien qu'il y a toute une partie de l'appareil d'État, de l'appareil répressif d'État qui dépend évidemment directement des ministres et donc du gouvernement.
Paradoxalement, c'est cette dimension politique de la contestation que les acteurs de la répression, tels que vous le dites, Vanessa Codaccioni, tendent aujourd'hui à invisibiliser en appelant casseurs, délinquants ou terroristes, des militants ou des manifestants. Quelle logique de dépolitisation avez-vous observé?
Ça, c'est quelque chose de très important et de central pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. C'est que l'État français, les gouvernements vont refuser de dire que les personnes qui sont réprimées sont des ennemis politiques, des opposants ou des personnes qui contestent, qui revendiquent et qui luttent. C'est-à-dire qu'on va essayer de leur enlever toute revendication politique, voire toute rationalité, en les traitant de casseurs, de terroristes ou de fanatiques. C'est-à-dire que des activistes, des manifestants vont être ramenés soit au statut de criminels, de délinquants, de terroristes ou de fous. Et ça, c'est une manière de dépolitiser leur engagement pour des raisons aussi très simples, symboliques, qui est d'illégitimer leur lutte, leurs revendications pour empêcher les soutiens et puis pouvoir les réprimer plus facilement. Donc c'est vraiment une manière, la dépolitisation, d'illégitimer et de réprimer plus.
Christophe, Joachim Barbier.
Est-ce que vous pensez que cette dépolitisation n'est pas liée aussi à la nature des Gilets jaunes qui est peut-être difficile à identifier pour ces gens qui... soi-disant ce nouveau monde, mais qui est aussi l'ancien monde, c'est-à-dire c'est un mouvement qui n'est pas structuré, qui n'est pas un corps intermédiaire, qui est né et en tout cas qui s'est accéléré avec les réseaux sociaux. Ce côté protéiforme permet cette dépolitisation, puisqu'il n'y a pas de leader, puisqu'en général, derrière un rapport de force, il y a des négociations. Là, on est ailleurs. Donc est-ce que ça rend pas plus facile finalement cette dépolitisation, la nature même des Gilets jaunes ?
Ça la rend plus visible. C'est-à-dire quand on a vu Édouard Philippe, Emmanuel Macron ou Christophe Castaner parler de casseurs, de complices, de gens qui allaient tout casser, c'était plus visible et c'était plus facile. Mais cette logique de dépolitisation, en réalité, elle s'inscrit dans un processus. Tous les mouvements sociaux sont visés. Les lycéennes et les lycéens d'Arago, les zadistes, les militantes et les militantes aujourd'hui à Bure, les féministes, les écolos, tout le monde est dépolitisé. Pour une raison très simple, c'est que le crime et le délit politique n'existent plus. Toute personne qui va être inculpée aujourd'hui va être inculpée pour des crimes et des délits de droit commun. Soit ça va être des atteintes aux personnes, c'est quelqu'un qui a agressé, violenté, soit ça va être une atteinte aux biens, c'est-à-dire le vol, le pillage, et ça, ce sont les casseurs. Mais des infractions politiques telles qu'elles ont existé en France et ailleurs dans le monde n'existent plus. Et donc cette dépolitisation qui passe par le judiciaire, elle touche vraiment tous les militants et tous ceux qui sont engagés dans des luttes.
Oui, mais en même temps, c'est eux qui se mobilisent, c'est eux qui manifestent. Oui. Et donc, le trouble à l'ordre public vient aussi de ces manifestations-là. Donc, les opérations de maintien de l'ordre, et c'est une des missions de la police aujourd'hui en France, s'exerce dans ce cadre-là.
Dans ce cadre-là, mais il y a deux opérations. Il y a une criminalisation des contestations politiques. Criminaliser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire rendre quelque chose de criminel. Considérer par exemple que tous ceux qui vont participer à des manifestations gilets jaunes participent à un groupement en vue de commettre des violences et des dégradations, c'est de la criminalisation. Mais on pourrait criminaliser en politisant, en disant « je réprime cet ennemi politique, je réprime cette personne parce qu'elle émet des revendications politiques, parce que c'est une opposante ou un opposant, parce que c'est un zadiste, parce que c'est... Non, on va dire ce sont des casseurs, des violents. Et c'est là, il y a bien une répression, mais qui est dépolitisante. Et c'est ça que je critique.
Alors, puisqu'on remonte le fil de l'histoire aussi, je vous propose de repartir sur un échange entre l'essayiste François de Closet et le syndicaliste Bruno Poncet, qui tournait autour des mots « prise d'otage ».
Les syndicats menacent de nous prendre en otage dans des conditions scandaleuses. C'est uniquement pour défendre leur statut et pas pour défendre le service public. Il faut cesser avec ce double langage. On est dans les rapports de force. Vous utilisez un pouvoir de nuisance. Quand on pense que les cheminots qui sont là conserveront leur statut, c'est scandaleux de même envisager de prendre dans ces conditions les Français en otage.
On ne prenait jamais le mot de preneur d'otage.
Vous ah bah savez si pas je ce que c'est.
Moi j'étais pris en otage pendant une heure et demie, je peux vous garantir, ça n'a rien à voir à être bondé dans une voiture de voyageurs quand il y a une grève. Il y a des mots pour employer, surtout à votre âge. Je pense qu'aujourd'hui vous devrez faire attention aux mots que vous employez. Et beaucoup de gens emploient ce mot-là, c'est pas un mot si facile à entendre.
Quand vous dites moi, que vous avez été pris en otage, vous faites allusion
moi, à... Moi j'étais au Bataclan. Donc moi aujourd'hui, les discussions de preneur d'otage et de théorie, je sais ce que c'est. Alors autour de cette table, on parle du statut de cheminot, je trouve que c'est un petit peu déplacé.
Vanessa Cotaccioni.
Tout à fait. Alors ça, c'est justement l'un des épisodes que je cite dans mon livre, hein. C'est-à-dire l'assimilation verbale, discursive, de plus en plus forte entre le militantisme et le terrorisme. Et ça, ça a été un épisode tout à fait marquant, puisqu'effectivement, les cheminots ont été accusés de prendre en otage la population comme des terroristes. Et cette personne a été obligée de dire « Mais moi, je suis un rescapé du Bataclan, c'est pas une prise d'otage. Je peux vous dire qu'il faut arrêter d'utiliser ces termes-là. » Mais je cite l'exemple aussi de Pierre Gattaz, hein, qui est l'ancien président du MEDEF, qui avait dit que les grévistes, les membres de la CGT étaient un peu des terroristes, des voyous. Il avait été poursuivi en diffamation pour ça. Et donc, on voit très bien qu'il y a une assimilation entre militer, faire grève et être un terroriste. C'est symbolique, ça vise encore à délégitimer, et ce cas c'est que c'est très important parce que c'est très grave. Dire aujourd'hui que des gens sont des terroristes dans le contexte post 13 novembre 2015, post-Bataclan, ça a une résonance émotionnelle très forte, c'est une stigmatisation encore plus forte. Donc c'est une injure presque. Mais ça c'est symbolique. Derrière ça se cache une vraie assimilation entre le militantisme et le terrorisme qui va passer par des dispositifs antiterroristes appliqués à des militantes ou des militants. Et ça, on l'a vu dès l'état d'urgence, on n'a pas besoin de remonter à plus loin, même si on pourrait, puisque trois semaines après la déclaration de l'état d'urgence, ce sont des militants de la COP21, des militants écologistes, qui ont été assignés à résidence. C'est-à-dire qu'un dispositif d'exception, officiellement pris pour lutter contre des djihadistes, a été appliqué à des militants. Et donc ça, c'est l'exemple type, pour moi, de cette assimilation militantisme-opposition égale terrorisme. Et c'est extrêmement grave.
Joachim Barbier.
Est-ce que vous pensez que c'est, on est dans une parenthèse post-terrorisme, justement, que en gros les pouvoirs publics utilisent certaines dispositions, ou alors qu'on est sur une tendance plus lourde, plus longue, d'un maintien de l'ordre et puis d'une gestion comme ça des opposants politiques?
On est dans une tendance très longue. Et l'histoire française, on pourrait remonter pour le coup au 19e siècle et à la gestion des menées, entre guillemets, anarchistes, où les anarchistes ont été considérés comme des terroristes. Seulement, il y a eu toute une période en France, entre 1963 et 1981, où le général de Gaulle avait créé un tribunal d'exception, la Cour de Sûreté de l'État, où on considérait que finalement, des opposants politiques, des terroristes, étaient finalement des opposants dignes d'être qualifiés de politiques. Par exemple, se mélanger dans cette Cour de Sûreté de l'État, des militants gauchistes, des membres d'Action Directe, des membres du FLNC, de l'ETA, qui étaient considérés comme des terroristes, traités comme des terroristes, c'est-à-dire avec des dispositifs d'exception. Par exemple, ils pouvaient être gardés à vue pendant 7 jours, ce qui est extrêmement grave. Ils pouvaient être détenus de manière illimitée. Ils étaient jugés par des juges politiques, choisis par le général de Gaulle, ou Pompidou, ou Giscard. Ils étaient jugés par des militaires. Mais en contrepartie, ces personnes-là étaient considérées comme des ennemis politiques. Donc il y a toujours eu cette tendance en France de considérer que les opposants sont des terroristes. N'oublions pas non plus que, même si c'est une période très particulière, les résistants, pendant la Seconde Guerre mondiale, étaient traités, considérés, jugés et exécutés comme des terroristes, selon les mots des Allemands et de Vichy.
Alors, puisque les mots sont importants, et vous le rappelez, concernant les militants et les manifestants, et l'utilisation stigmatisante aussi de termes comme casseurs, terroristes, si je retourne dans l'autre sens, quand est-ce qu'on est dans le maintien de l'ordre et quand bascule-t-on pour vous dans la répression, terme qui donne à votre essai son titre?
Bien sûr. Pour moi, le maintien de l'ordre, c'est déjà de la répression. La répression, c'est...
Parce que le maintien de l'ordre, il y a la prévention et la répression, logiquement.
Bien sûr. Alors la répression, on peut considérer que c'est la gestion de la contestation politique à des fins d'annihilation de la contestation politique. C'est ça la répression. C'est on veut en finir avec une lutte, on veut en finir avec une revendication, on veut en finir avec un mouvement social. Le maintien de l'ordre, effectivement, on peut le voir de manière préventive. C'est-à-dire pour empêcher des individus de passer à l'acte.
Et protectrice pour aussi une majorité de manifestants. Si on prend le cas des mobilisations, il y a aussi dans les missions de maintien de l'ordre, l'action pour prévenir les incivilités, pour garantir le bon déroulement des manifestations autorisées.
Bien sûr, mais là vous avez raison, c'est qu'il y a le préventif et le réactif, mais que ce qu'on voit très bien aujourd'hui, c'est qu'on est dans un maintien de l'ordre, on ne sait plus très bien si c'est réactif ou préventif, mais on voit surtout qu'il devient de plus en plus préventif, avec notamment tout le débat qu'il y a en ce moment et qui s'est ravivé hier avec la censure du Conseil constitutionnel sur l'article 3 de la loi anti-casseurs, on voit de plus en plus qu'on veut un maintien de l'ordre préventif, interdire les gens de manifester. C'est interdire les gens de lutter, de revendiquer. Et ça, c'est là encore une application de la logique antiterroriste au maintien de l'ordre. C'est quoi la logique antiterroriste ? C'est empêcher que des individus passent à l'acte, commettent un attentat. C'est pas idiot. C'est même très bien d'empêcher quelqu'un de passer à l'acte et de commettre un attentat. En revanche, appliqué à la contestation politique, cela devient beaucoup plus dangereux. C'est attentatoire aux libertés et aux garanties fondamentales.
Voilà, donc la répression préventive, ce n'est pas qu'un oxymore.
Non, tout à fait.
On va écouter les mots à ce propos de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. C'était en janvier dernier, autour de la loi sur les manifestations, la loi dite anti-casseurs.
D'abord, ce n'est pas une loi qui apparaît seulement au moment des Gilets jaunes, mais c'est une loi qui a répondu également au débordement du 1er mai dernier, qui, vous le savez, ont été extrêmement violents également. Donc c'est pas une loi de circonstance, c'est une loi qui est destinée, je le dis, je le répète, à protéger cette liberté de manifester, d'une part, et d'autre part, l'inscription dans une loi permet de poser un certain nombre de garanties. Et c'est ce à quoi les parlementaires vont, je pense, s'attacher. C'est-à-dire vraiment vérifier que à chaque mesure, il y a un juge qui puisse intervenir dans des délais efficaces pour garantir la liberté de manifester, tout en donnant des moyens opérationnels.
Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, un dispositif de protection. Vanessa Kotachvani, vous ne le percevez pas du tout comme tel ?
Pas du tout. Alors ça, c'est le... La cerise sur le gâteau, c'est de dire qu'on va interdire les gens de manifester pour préserver la liberté de manifester. C'est tout à fait classique d'ailleurs, hein, les gouvernements ne vont jamais reconnaître qu'ils mettent en place évidemment des mesures liberticides ou d'exception. Cette loi anti-casseurs, il faut voir qu'elle s'inscrit là encore dans un contexte. Vouloir interdire les gens de manifester, c'est très ancien. Par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé sur le Parti communiste pendant la guerre froide, toutes ces manifestations de rue étaient interdites, il en a organisé 450 quand même. Elles étaient toutes interdites, il les faisait quand même. Donc il y a toujours une volonté d'interdire les manifestations. La loi anti-casseurs, en fait, elle date de 1978 et elle avait été mise en place pour lutter contre les militants maoïstes. Seulement, très rapidement, on s'est aperçu qu'elle s'est appliquée à des syndicalistes, à des étudiants, à des lycéennes et des lycéens, et Robert Badinter et François Mitterrand ont supprimé la loi anti-casseurs en 81. Depuis, la droite n'a de cesse de vouloir ressusciter la loi anti-casseurs. Une partie de la loi anti-casseurs a déjà été ressuscitée par Christian Estrosi en 2010, avec la loi sur les bandes, qui permettait justement de réprimer ce qu'il appelait les bandes. Et là, on voit très bien qu'il y a un assaut depuis quelques années contre le mouvement social, avec cette volonté de réinstaurer la répression des manifestants, des manifestantes, et même le prévoir préventivement. Donc, je sais que l'année dernière, effectivement, il y avait une forte agitation autour du 1er mai et des événements liés aux violences des Black Blocs. Et je sais qu'Edouard Philippe avait d'ailleurs dit il faudrait dissoudre le Black Bloc. Ce qui est une absurdité totale, hein, puisqu'on ne peut pas dissoudre un mouvement qui n'a aucune hiérarchie, qui n'a pas de structure et d'organisation légale. Mais ça dit quelque chose. Ça dit qu'on veut vraiment éradiquer certains groupes, certains mouvements. Et si ça ne peut pas passer par la dissolution, ça va passer par les interdictions de manifester, et pourquoi pas la prison, et pourquoi pas les assignations à résidence, etc.
Parce que pour vous, les Black Blocs, il faudrait les laisser agir comme ils le souhaitent ?
Ah ça, je ne sais pas à moi de le dire, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il ne faut pas considérer que les Black Blocs sont de purs casseurs qui cassent pour piller et pour voler. Il y a une vraie idéologie derrière, anticapitaliste, hein, on voit très bien que les symboles pris sont toujours des banques, des assurances, etc. Donc là encore, hein, il y a une criminalisation des Black Blocs et une vraie incompréhension, qu'elle soit réelle ou qu'elle soit factice, hein, par ailleurs, une incompréhension de ce qu'est le mouvement Black Bloc.
Joachim Barbier.
Quand on brûle une banque ou un cabinet d'assurance, vous dites vous êtes dans le symbole, mais est-ce qu'on n'est pas non plus dans la caricature ?
Alors ça, c'est encore pas à moi de le dire, je sais pas, c'est un choix. Vous savez, les Black Blocs, ils ont théorisé cette violence-là. Dans le contexte, ça s'est créé, les Black Blocs, dans le mouvement anti-mondialisation, vous le savez. Et donc, ils ont choisi des symboles capitalistes. Les McDonald's, les banques, les assurances, c'est pas à moi de dire si c'est bien ou c'est pas bien, mais en tout cas, c'est peut-être à moi de relever qu'il y a une dimension politique à cette violence-là, et que malgré tout, la violence, elle peut être politique, et elle est aussi parfois politique en réaction au maintien de l'ordre. Justement, on n'en a pas parlé, mais il y a toujours une interaction entre violence policière et violence manifestant, les uns et les autres se répondant.
Mais il y a aussi des délits qui sont commis.
Il y a des délits qui sont commis, bien sûr.
Et c'est aussi ça qui est, est tenté d'être empêché, soit et par l'arme du droit ou de la justice derrière condamné.
Il y a des délits qui sont commis. Michel Foucault dirait des illégalismes. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas utiliser le mot délit, parce que c'est un mot de la justice française. Donc il dit qu'il faut inventer des propres mots, on va utiliser le mot... Il y a toujours des illégalismes qui sont commis. Après, la frontière entre l'illégalisme ordinaire et l'illégalisme politique peut être travaillée, et à mon avis, on doit insister là-dessus. Maintenant, ce qui est important de voir, c'est que pour quelques délits de droit commun, le gouvernement, la police, la justice va utiliser ça pour réprimer tout un mouvement social.
Alors j'en reviens à David Dufresne qui répond à vos questions, Joachim Barbier, dans les pages du magazine Society, aux différents signalements de débordements, de bavures des forces de l'ordre. Hier, sur France 2, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, estimait qu'il n'y en a pas d'image de violence policière.
Il n'y a pas d'image de violence policière. Il y a une scène où un policier, dans l'action, à un moment d'une charge, a effectivement poussé quelqu'un. Pour y voir clair, nous avons fait le choix. Oui, mais dans la confrontation, vous savez, quand les policiers sont chargés de dégager une manifestation, effectivement, il y a des gestes qui peuvent se produire. Mais pour lever le doute, y compris parce que ce qui nous est rapporté, c'est que l'individu en question voulait se saisir d'une grenade et pour la renvoyer sur les forces de l'ordre, j'ai demandé au préfet que l'inspection générale de la police nationale soit saisie.
Sur cette question de la proportionnalité entre les violences aussi, celles commises par des manifestants, celles commises par la police. Alors c'était pas hier, c'était avant-hier, c'était pas sur France 2, c'était sur France 3, mais c'était bien Christophe Castaner, Vanessa Codaccioni. Oui. Christophe Castaner qui rappelle que pour qu'il y ait violence policière, il faut qu'il y ait un acte intentionnel de blesser.
C'est une manière absolument, je sais pas comment dire ça... ridicule de nier les violences policières et de les invisibiliser, ce qui est une stratégie tout à fait courante. Soit on dit qu'il n'y a pas de violences policières et il n'y en a pas eu, malgré les images. Deuxièmement, soit on va dire que les personnes qui ont été violentées, mutilées, mortes ou mortes parfois, c'est leur faute. C'est-à-dire qu'on va rendre les personnes responsables de leurs propres blessures ou de leurs propres décès. C'est ce qu'on a vu avec la dame qui est tombée à Nice, où le président Macron lui souhaitait de la sagesse. On a bien vu qu'elle n'y était pas. Voilà. Ça, c'est une manière d'invisibiliser la répression policière, de la nier, et surtout, et ça c'est extrêmement important, de renverser la responsabilité et la culpabilité sur les manifestantes et les manifestants. Donc ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, très, très grave. Et puis, il y a une deuxième chose qui est importante dans ce que dit Castaner, il dit toujours, on ne voit pas, il n'y a pas d'image, on ne voit rien. Mais en réalité, moi je crois au contraire qu'on voit beaucoup. Et le travail de David Dufresne y participe largement. Et je trouve que, justement, peut-être la différence avec avant, il y a toujours eu des violences policières en France. Il y a toujours eu des morts, il y a toujours eu des mutilés, etc. Mais aujourd'hui, on les voit grâce aux vidéos et grâce au travail des journalistes. Et c'est pas pour rien, et c'est ce que je dis dans mon livre, que les journalistes aujourd'hui sont eux aussi pris pour cible, qu'ils sont, blessés, leur matériel soit pris, qu'ils soient fichés S, ou encore qu'ils soient jugés, et voilà. Et donc, c'est à mon avis, c'est pour ça qu'on prend aussi pour cible les journalistes, parce que ce sont eux qui aujourd'hui, en partie, visibilisent la répression policière.
Joachim Barbier.
Si au lieu d'opposer violence sur les manifestants à violence policière, comme le fait Castaner, est-ce que si on met, on ajoute tout ça, est-ce que finalement c'est pas un aveu d'échec sur la façon de faire de la police en France ? Autant les policiers blessés que les manifestants.
Ah ben de toute façon, il y a un vrai problème de maintien de l'ordre en France. Le maintien de l'ordre en France, il faut regarder ce que disent les spécialistes et les sociologues de la police. Nous avons l'un des maintiens de l'ordre les plus durs en France. Il est répressif, il est intolérant, il est non sélectif, ça veut dire qu'il va toucher un peu tout le monde au hasard, on tire au LBD, ah bah, c'était pas la personne qu'on voulait toucher, on voulait toucher les jambes et finalement on a touché la tête. Bon, on a l'un des maintiens de l'ordre les plus répressifs, et effectivement, comme vous dites, ça ne marche pas. Et en dépit du fait que ça ne marche pas, on ne va pas se remettre en cause et on ne va pas se remettre en question. On sait qu'à l'étranger, en Angleterre, par exemple, les bobbies ne sont pas armés et que du coup, ça produit des effets de désescalade et de déradicalisation. On sait qu'en Allemagne, malgré des manifestations qui peuvent être ultra-violentes, on n'en arrive jamais à ces taux de blessés et de mutilés parce qu'il y a une meilleure coordination entre les polices, parce qu'il y a une meilleure communication avec les manifestants et tout simplement parce qu'on a décidé de mettre en œuvre une stratégie de désescalade. Et en France, on ne se remet pas en cause.
Sur cette question, pardon, des LBD, je vous propose d'écouter là les mots du préfet de police, Didier Lallement, le nouveau préfet de police, qui a été auditionné mercredi par le Sénat. Il évoquait le dépit des fonctionnaires et des militaires de la préfecture de police autour des débordements et des violences qui avaient eu lieu lors de la journée de mobilisation du 16 mars, où il n'était pas, lui, encore en poste. Et à propos de l'usage des LBD, voilà ce qu'il disait.
Ce qui se passe dans la violence de ces manifestations est totalement préoccupant. Moi, j'ai un fonctionnaire, enfin c'est un gendarme, qui a eu la mâchoire arrachée il y a très peu de temps par un pavé. C'est ça la réalité de ce genre de choses. Donc les dispositifs que nous utilisons, les LBD, sont à l'évidence des dispositifs qui visent à maintenir à distance les manifestants, à éviter un corps à corps qui serait totalement catastrophique, voire même qui pourrait provoquer l'usage des armes de service si les fonctionnaires ou les militaires se trouvaient en danger.
Voilà, des LBD qui visent à maintenir à distance et éviter le corps à corps. Voilà ce que disait le préfet Didier Lallement devant les sénateurs mercredi. Si c'était cela, Vanessa Codaccioni, ça pourrait aller, mais c'est beaucoup plus que ça.
Ben en fait, la police n'a jamais été autant armée. Et je crois que là, on est dans un autre processus qu'on n'a pas encore évoqué, qui est celui de la militarisation de la police. La police devient de plus en plus militarisée. On le voit à l'armement, on le voit aussi à sa manière de faire. Et ça, ça rentre aussi dans un processus politique. Vous le disiez au tout début de l'émission, mais je crois que c'est extrêmement important. Depuis l'état d'urgence au moins, on donne des injonctions à la police d'être plus répressive. Et avec ce mot d'ordre qui a émergé après les attentats du 13 novembre, nous sommes en guerre.
Quelles injonctions ? Elles sont transmises par qui et comment ?
Ben par les médias, par les syndicats de police, par les préfets aussi. Donc il y a cette forme de constat que la police, elle devient de plus en plus proche des tâches militaires. Et à l'inverse, les militaires ont des tâches de plus en plus proches de l'armée. On assiste du coup à une militarisation. L'armée a de plus en plus de tâches proches de la police. Du coup, on assiste à une militarisation du maintien de l'ordre. Et je crois que l'armement policier fait partie de ce processus de militarisation du maintien de l'ordre. Parce que ce sont des armes extrêmement dangereuse, mutilante, on le sait, et ailleurs, une fois encore, ça n'existe pas.
Est-ce qu'il y a aussi pour vous, Vanessa Codaccioni, une extension du champ lexical des infractions qui sont poursuivies aujourd'hui? Deux figures du mouvement des Gilets jaunes qui étaient convoquées par la police judiciaire cette semaine, c'est Éric Drouet et Maxime Nicole. Après des signalements effectués par le ministère auprès du parquet pour provocation publique à la commission de violence. Ça, c'est nouveau comme qualificatif juridique?
Est-ce que c'est nouveau? Non, parce que, par exemple, c'est quelque chose sur lequel moi j'ai pas mal travaillé, parce que le Parti communiste a été l'un des partis les plus réprimés de France, et donc ses militants étaient inculpés à peu près de tout et de n'importe quoi. Et par exemple, l'un de leurs grands délits, c'était provocation de militaires à la désobéissance. Lorsqu'ils disaient qu'il ne fallait pas faire la guerre en Algérie, par exemple, ou qu'il ne fallait pas porter les armes ou des choses comme ça. Donc la provocation à...
Ça fait partie de ces termes flous, des mots un peu valises dans lesquels on peut tout mettre.
Ça fait un peu des termes flous, des termes valises, mais là aussi on peut penser à l'apologie du terrorisme, faire l'apologie de quelque chose. Donc là aussi c'est criminaliser une intention, une parole et un discours. Et ça aussi on le voit de plus en plus.
Qu'est-ce qu'il faudrait criminaliser pour vous? Ne pas criminaliser, mais je veux dire, pas, si ce n'est pas l'intention. Il ne faudrait juger que les actes.
Un acte.
D'accord. Ce qui est le principe de la justice. Joachim Barbier.
C'est vrai que le conflit qu'on estime qu'il soit social ou autre, et aussi dans le champ lexical, il y a des mots qu'on a vus revenir, comme par exemple séditieux, quelque chose qu'on n'avait pas entendu depuis, je ne sais pas si c'est les années 30 ou les années 50. La bagarre, le conflit, il est aussi sur les mots. beaucoup.
Oui, il est beaucoup sur les mots. Et moi, j'ai été très frappée par tous les mots qui ont été utilisés par le gouvernement depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, factieux. Ça, c'est pour les Gilets jaunes. Agitateurs de foule, agitateurs professionnels, casseurs, terroristes, on l'a dit. Et puis, il y a quelque chose qui m'a aussi beaucoup marquée, c'est le mot « complice ». Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il a été prononcé mais à de multiples reprises à propos des gens qui pourraient soutenir les Gilets jaunes ou qui voudraient simplement manifester. Vous serez complice de ce qui sera commis. Comment est-ce possible de dire ça? En quoi soutenir un mouvement, une lutte, même symboliquement, ou d'aller manifester? On serait complice de crimes qui n'ont pas encore été commis. Et donc on voit bien effectivement le poids des mots là. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est exactement ce que vous disiez sur séditieux. C'est quoi ce poids des mots? C'est une menace. C'est la menace de dire, si vous venez, vous serez réprimé, attention à vous. Et donc on voit ici que les mots sont importants, effectivement.
Un mot du retour du droit, est-ce que vous le percevez comme tel, avec la décision du Conseil constitutionnel de censurer cette disposition de la loi dite anticasseur votée le 12 mars par le Parlement? C'était l'article le plus controversé, le 3, qui permettait au préfet de prononcer des interdictions de manifester à l'encontre de personnes représentant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ce sont les termes du texte, censuré donc par le Conseil constitutionnel hier. Est-ce que ça c'est une bonne nouvelle?
Oui. C'est une bonne nouvelle. Il ne faut pas faire la fine bouche, je crois. C'est une bonne nouvelle. Il faut s'en réjouir. On ne peut que s'en réjouir. Parce que vraiment, ça, c'était une disposition tout à fait attentatoire aux libertés fondamentales, à un droit qui n'est pas reconnu comme tel officiellement, mais enfin qui est le droit de manifester. Et le Conseil constitutionnel a bien dit que, d'une part, les termes étaient flous. Et on en revient toujours à ces termes flous qui sont utilisés dans des lois pour réprimer plus massivement. Mais le Conseil constitutionnel a dit que c'était aussi trop attentatoire aux droits et aux libertés individuelles et collectives. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, plusieurs choses. Premièrement, dans la loi, il y a toujours d'autres dispositions très liberticides. Le délit de dissimulation du visage, puni de 1 an à 15 000 euros d'amende, n'a pas disparu. Ça, c'est très problématique. Deuxièmement, l'interdiction de manifester peut toujours être prononcée lors d'un contrôle judiciaire par un juge. Autrement dit, par quelqu'un qui n'a pas encore été jugé, peut être interdit de manifester. Donc, il y a toujours des interdictions de manifestation. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais il faut regarder qu'il reste quand même pas mal de dispositions très répressives dans la loi. Et puis, deuxièmement, si on regarde l'histoire de la répression en France, et notamment de ces dernières années, on ne peut pas dire que le Conseil constitutionnel, tout comme le Conseil d'État, joue véritablement le rôle de contre-pouvoir, puisque la plupart des lois, antiterroristes ou autres, sont votées sans sourciller. Donc, c'est très bien, il faut s'en réjouir, c'est un coup d'arrêt, mais attention, d'ailleurs, rien n'empêche qu'une nouvelle loi avec d'autres dispositions puisse arriver à peu près à la même chose.
Et s'il ne joue plus ce rôle-là, quels sont les contre-pouvoirs pour vous aujourd'hui?
Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup parce que ce qui est très inquiétant et ce que je dis souvent, c'est que les lois sont votées quasiment sans sourciller. Et ça, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Qu'est-ce qu'on peut faire contre le fait qu'un président de la République et son gouvernement proposent des lois liberticides et qu'elles soient votées parce qu'ils ont la majorité à l'Assemblée nationale? Que peut-on faire contre ça? Pas grand-chose, à moins de réformer les institutions.
À moins de trouver des contre-pouvoirs ailleurs.
Oui, comme les journalistes, comme les intellectuels, comme, mais vous savez, c'est bien, mais c'est pas suffisant.
Merci beaucoup à vous, Vanessa Codaccioni. Je rappelle le titre de ce court essai qui vient de paraître, Répression, l'État face aux contestations politiques. Merci à Joachim Barbier du magazine Society qui est venu m'épauler dans cette discussion. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous venez de donner dans vos pages la parole au journaliste David Dufresne autour d'une enquête et de l'action qu'il mène depuis le début de la mobilisation des Gilets jaunes pour dénoncer les débordements et les bavures des forces de l'ordre. Allô Place Beauvau, c'est le nom de son fil Twitter, le magazine Society, nouveau numéro qui est en kiosque depuis hier. Merci à tous.